Ce matin, le titre du message, c'est « Entre dans le fleuve de vie ». Entre dans le fleuve de vie. Je crois qu'il y a de nombreux chrétiens qui sont fatigués, harassés par la vie, par tout ce qui peut nous arriver. C'est vrai que la vie, elle a l'air facile de nos jours. Il y a la technologie, il y a l'avancement, il y a le progrès. Mais néanmoins, des fois, ça nous cause même plus de tracas qu'autre chose. Et puis, eh bien, nous sommes harassés parce que attaqués chaque jour par différentes tentations, par différentes choses qui viennent harasser notre vie. Et puis l'ennemi de notre âme, eh bien, n'a de cesse de nous poursuivre et de nous harceler parce que nous sommes des cibles à partir du moment où nous avons donné notre vie à Jésus et à partir du moment où nous consacrons à lui, à partir du moment où nous nous engageons, nous devenons sa cible préférée. Nous nous souvenons que l'apôtre Pierre lui-même avait été réclamé par Satan pour être criblé comme le froment. Et c'est le Seigneur lui-même qui l'a dit à l'apôtre Pierre, « Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. » Et nous savons que Jésus est à la droite de Dieu et qu'il intercède pour chacun d'entre nous. De nombreux chrétiens sont aussi harassés, même fatigués par le service demandé par le Seigneur. Nous sommes entrés dans le mandat qu'on appelle la grande commission, que vous connaissez bien, qui est dans Matthieu chapitre 28, verset 19. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Dans tous les programmes d'activité des différentes églises qui peuvent exister, eh bien, si la vie du Saint-Esprit n'est pas vécue comme une réalité par les croyants, il y a fatigue, on se fatigue, et on est un peu à faire cela sans Dieu. Et comment imaginer qu'on puisse faire cela sans Dieu? Comment imaginer qu'on remplit le mandat que Dieu nous a confié sans Dieu lui-même, c'est-à-dire par nos propres efforts, alors que c'est un mandat qui émane du Dieu d'amour qui veut que tous les hommes viennent à la repentance? C'est un mandat qui émane du Dieu d'amour à qui il a plu de briser son Fils sur la croix du calvaire pour qu'il meure pour les péchés de cette humanité qui a besoin d'être réconciliée avec lui. C'est de la compassion pour l'homme que naît cette mission, ce mandat. Il vient tout droit de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la croix, l'Esprit de Jésus-Christ. Et il faut lire évidemment la suite dans l'ordre de Jésus, quand il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Si on en reste là, on n'a rien compris au film. Il faut toujours lire la suite. C'est comme les grandes séries, vous savez. Si vous regardez le premier épisode, vous allez rater le deuxième, si vous ne le regardez pas, évidemment. C'est une vérité de la palisse. Eh bien, il est écrit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le Seigneur est présent avec nous. Et nous lisons d'ailleurs dans Luc, je crois que c'est dans la fin de l'évangile de Luc, que les disciples s'en sont allés prêcher l'évangile. Et il est écrit que le Seigneur était avec eux, accompagnant l'annonce de la parole par des signes, des miracles et des prodiges. Nous ne pouvons pas évangéliser, ni même imaginer évangéliser, travailler pour Dieu, quelle que soit la tâche, même l'intercession, la prière, sans l'Esprit de Dieu, sans quoi nous nous fatiguons, sans quoi nous devenons comme des cendres. Nous nous consumons, et le Seigneur ne nous a pas appelés à nous consumer, mais il nous a appelés à être bouillants, incandescents. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est ainsi que Jésus annonce finalement la présence du Saint-Esprit qui va marquer et qui va faire la différence dans la mise en application de cet ordre, de ce divin mandat qu'il a confié à ses disciples. Alors nous allons faire une lecture dans le prophète Ézéchiel au chapitre 47. Et là nous allons tout droit vers le lieu d'où découle toute chose, le trône de Dieu. Ézéchiel, chapitre 47, versets 1 à 12. Et peut-être ayant en mémoire, pendant que nous cherchons les pages de la Bible qui concernent ce passage, ayons en mémoire que Jésus a dit qu'il détruirait ce temple et qu'il le reconstruirait 3 jours après. Il est aujourd'hui le temple. Il est aujourd'hui aussi celui qui fait de nous des temples. Mais le sanctuaire, c'est lui. Il est le sanctuaire à lui tout seul. Il est ce temple dans lequel nous avons besoin d'entrer. Il est ce temple dans lequel nous avons besoin d'adorer. Alors, nous allons lire ce passage Et le prophète Ézéchiel vit quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire. Ézéchiel est un prophète qui est entré dans la dimension de l'Esprit de Dieu à plusieurs reprises. Dès les premières pages du livre prophétique d'Ézéchiel, vous voyez déjà qu'il entre dans le surnaturel de Dieu, il entre dans des profondeurs que l'homme ne peut pas imaginer. Et il est écrit ici « Et il me fit retourner ». Il s'agit d'un homme qui se présente là, qui est matérialisé en tout cas sous forme humaine. « Il me fit retourner à l'entrée de la maison, et voici des eaux qui sortaient de dessous le seuil de la maison vers l'Orient, car la façade de la maison était tournée vers l'Orient. Et les eaux descendaient de dessous, du côté droit de la maison, au midi de l'autel. Et il me fit, au midi, c'est au sud de l'autel, et il me fit sortir par le chemin de la porte du nord, et il me fit faire le tour par dehors vers la porte extérieure, vers la porte qui regarde vers l'Orient. Et voici des eaux. Si vous vous souvenez des messages qui ont pu être prêchés au cours de l'année, les eaux, à chaque fois qu'il est question des eaux du Saint-Esprit, c'est au pluriel, maïm en hébreu. Les eaux, c'est pas de l'eau, c'est des eaux parce qu'il y a abondance. Il y a un torrent là d'eau. Et voici des eaux qui coulaient du côté droit. Quand l'homme sortit vers l'Orient, il avait un cordeau dans sa main. Et il mesura 1000 coudées et me fit traverser les eaux, des eaux montant jusqu'aux chevilles des pieds. Et il mesura 1000 coudées et me fit traverser les eaux, des eaux montant jusqu'aux genoux. Et il mesura 1000 coudées, c'est-à-dire 500 mètres, et me fit traverser, des eaux montant jusqu'aux reins. Et il mesura 1000 coudées, c'était une rivière que je ne pouvais traverser car les eaux s'étaient accrues, des eaux où il fallait nager, une rivière qu'on ne pouvait traverser. Et il me dit, « As-tu vu, fils d'homme ?» Et il me fit aller et retourner sur le bord de la rivière. Quand j'y fus retourné, voici au bord de la rivière des arbres en très grand nombre, d'un côté et de l'autre. Et il me dit, « Ces eaux sortent vers la contrée orientale. Elles descendent dans la plaine et parviennent jusqu'à la mer. Lorsqu'elles se seront déversées dans la mer, les eaux de la mer seront rendues saines. » Et il arrivera que tout être vivant qui se meut partout où parvient la double rivière vivra. Et il y aura une très grande quantité de poissons, car ces eaux parviendront là, et les eaux de la mer seront rendues saines. Et tout vivra, là où parviendra la rivière. Et les pêcheurs se tiendront auprès d'elle, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm, où sera un lieu pour étendre les filets. Leur poisson sera selon ses espèces, comme le poisson de la grande mer, en très grand nombre. Ces marais et ces étangs ne seront pas assainis, ils seront abandonnés au sel. Et sur la rivière, sur son bord, d'un côté et de l'autre, croissaient toutes sortes d'arbres dont on mange. Leur feuille ne se flétrira pas, et leur fruit ne cessera pas. Tous les mois, ils porteront du fruit mûr, car ces eaux sortent du sanctuaire. Car ces eaux sortent du sanctuaire, et leur fruit sera pour nourrir, et leur feuille pour guérir. Amen. Il y a une grande richesse, vous le devinez, dans ce passage prophétique. Et le premier point que j'aurais envie de soulever, si je donne un titre au premier point qui me fait réagir par rapport à ce texte, c'est que de la croix, la grâce coule. C'est un chant qu'on chante. De la croix, la grâce coule. Eh bien, de la croix, la grâce coule. Nous avons lu, il me fit retourner à l'entrée de la maison, et voici des eaux qui sortaient de dessous le seuil de la maison vers l'Orient. Car la façade de la maison était tournée vers l'Orient, et les eaux descendaient de dessous du côté droit de la maison au midi de l'autel. Jésus, nous l'avons vu, est ce temple ressuscité. Et de son côté droit coule sa grâce. De son trône de gloire coule un fleuve, nous dit la Bible. La Bible dit que les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau. Et il y en a en réserve pour nous. Ce n'est pas des petites eaux. Nous sommes invités à beaucoup plus. C'est le psaume 65, verset 9, qui dit « Les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau. Il y a de la plénitude, il y a de l'abondance. » Et c'est de son côté percé, le côté percé de Jésus, que sont sortis du sang et de l'eau, nous annonce Jean chapitre 19, verset 34. C'est ce témoignage spirituel de la mort de Jésus crucifié, relevé par l'apôtre Jean. Il relève cela, ce détail. Que lorsque le soldat a lancé la lance sur les flancs de Jésus, sur les côtes de Jésus, eh bien, il en est sorti de l'eau et du sang. Et nous lisons dans ce passage que les eaux descendaient du côté droit du temple, de la maison. Et c'est de Jésus que vient cette eau abondante, cette plénitude dont il veut nous remplir, dont il veut que nous soyons immergés, inondés. Le baptême dans le Saint-Esprit et la plénitude du Saint-Esprit qui en découle viennent tout droit de la croix. C'est une bénédiction contenue dans le salut de Dieu accompli sur la croix. Ce sont des promesses de Dieu qui sont oui, amen, parce qu'elles sont contenues dans le message de la proclamation de l'Évangile, dans le message de l'Évangile de gloire, dans le message du salut acquis sur la croix du calvaire par Jésus, notre Sauveur. Tout commence à la croix, tout commence à la croix, du sang aux eaux. Il a versé son sang et en même temps, eh bien, nous sommes promus à recevoir l'eau vive, à recevoir les eaux, à vivre dans les eaux, à évoluer dans les eaux de l'Esprit de Dieu. Mon deuxième point, ça serait les chevilles, le minimum vital pour aller plus loin. Il nous est écrit, nous l'avons lu, quand l'homme sortit vers l'Orient, il avait un cordeau dans sa main. Et il mesura 1000 coudées et me fit traverser les eaux, des eaux montant jusqu'aux chevilles des pieds. Ézéchiel a donc été mené de la terre sèche vers les eaux de ce fleuve glorieux, de ce fleuve dont nous savons que c'est un fleuve surnaturel, que c'est le fleuve de la vie de Dieu. Ça nous fait remonter à la Genèse où Dieu a tout créé. Dieu est la vie est en Dieu. La vie véritable, elle est en Dieu. Et nous ne pouvons recevoir la vraie vie que par lui. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Il a dit encore « Je suis la résurrection et la vie ». Ce ne sont pas simplement des paroles pour faire beau dans nos Bibles ou sur des cadres que nous exposerions, mais c'est pour nous prévenir que si nous adhérons, si nous croyons, si nous marchons avec Jésus, alors la vie nous est promise, la vie dont il a dit « Je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous ayez la vie en abondance ». Ce n'est pas une petite vie chiche, ce n'est pas une petite vie religieuse, ce n'est pas simplement d'être assis sur une chaise chaque dimanche, mais c'est tous les jours de notre vie pouvoir être plongé dans ces eaux surnaturelles. Ézéchiel a donc été mené de la terre sèche vers les eaux de ce fleuve glorieux dont il a la vision et qui est une image de la vie du Saint-Esprit que Dieu veut répandre en abondance au sein de son corps qui est l'Église. En effet, Dieu veut nous faire passer de la sécheresse et de l'absence de vie, d'une religion qui pourrait être froide et superficielle, voire à une tiédeur spirituelle. Il veut nous faire passer de tout cela à la réalité tourbillonnante. Parce que c'est cela un fleuve. Moi, j'étais dans un fleuve frontière un jour, le Rio Minho, qui sépare l'Espagne du Portugal, et je suis tombé dedans, parce que j'ai voulu sauter entre deux obstacles, et je suis tombé au milieu et j'ai failli me noyer. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des tourbillons. Et je peux vous dire que c'est un fleuve tourbillonnant de vie. Quand vous pêchez, il y a du poisson qui rentre. Et moi, j'ai failli être un poisson aussi. Et heureusement, on m'a sauvé à la dernière minute. C'est vraiment même une image du salut, parce qu'on est venu me tendre la main. Celui qui a dû le faire, il a dû prendre sur lui et faire une acrobatie assez spectaculaire en se tenant à une pierre et tout en allant me chercher. Il était aussi jeune que moi, donc il a fait vraiment son maximum, lui. Et si je suis là encore aujourd'hui, bien, pour vous en parler, c'est bien parce que ce gars-là, il a pris un peu de risque pour moi. Alors, il y a des tourbillons. Ça tourbillonne de vie dans un fleuve. Et le fleuve du Saint-Esprit, l'autre fleuve dont je viens de vous parler, n'est qu'une pâle image face à ce fleuve où la vie du Saint-Esprit vient irriguer, vient donner la vie à tout ce qui était mort, à tout ce qui était sale. Il vient donner la pureté. Et c'est ce grand fleuve qui grouille de vie, donc qui est l'image ici de la vie du Saint-Esprit. Et 4 fois, nous voyons l'ange mesurer 1000 coudées, 500 mètres. Et ça représente plusieurs étapes. La première étape va donc mener Ézéchiel jusqu'aux chevilles. C'est le minimum vital de Dieu, c'est le RMI spirituel. C'est un état dans lequel il ne faut pas stationner, frères et sœurs. C'est le baptême dans le Saint-Esprit. Mais vous savez, même quand il y en a, ils sont baptisés dans le Saint-Esprit. Alors il y a ceux qui ne le sont pas encore et qui se disent « Ah, si seulement je l'étais !» Et puis quand ils voient ceux qui l'ont reçu, et des fois dans quel état stationnaire ils se trouvent, ils se disent « Bah oui, mais dis donc, lui, il en profite guère !» Alors il y a une sorte de petite jalousie spirituelle qui est là, mais qui est bonne. C'est de l'envie spirituelle, c'est une soif d'aller plus loin et de se dire « Bah tiens, moi si je l'avais, j'irais beaucoup plus loin que lui !» Et c'est ce à quoi nous sommes invités par ce passage, à aller plus loin avec le Seigneur. Et la première étape, les chevilles, c'est le minimum vital. C'est un état dans lequel nous ne pouvons pas rester, nous ne pouvons pas stationner. Très vite, il nous faut circuler, car il n'y a vite plus rien à voir. Il faut aller plus loin. L'image, c'est que, par exemple, si vous voulez une comparaison logique et en même temps pour ridiculiser le fait de rester stationnaire, de rester toujours dans la même chose, eh bien, c'est que si vous essayez de suivre un véhicule en stationnement, vous n'irez pas bien loin. On est d'accord. Hein, on n'ira même nulle part. Hein. Alors, on ne doit jamais se comparer avec ce qui est moins que nous et ce moins que le minimum. Parce que ce moins que le minimum, c'est la mort spirituelle, c'est la tiédeur, c'est l'absence de vie, c'est la superficialité, c'est une vie insipide, c'est sans saveur. Mais nous devons nous comparer toujours avec les profondeurs à atteindre. Et là, nous avons dans ce passage, que nous pouvons lire et relire pour nous en imprégner, eh bien, un défi à relever, celui d'atteindre les profondeurs que Dieu veut que nous atteignions. Plonge-moi dans ta rivière d'amour, chantons-nous souvent. Un merveilleux cantique, effectivement, celui qui a été inspiré de le faire, eh bien, il a eu bien raison, parce que c'est une belle prière. Immerge-moi, plonge-moi dans ta rivière d'amour, dans le fleuve de ton esprit. Si je vais prêcher dans une église non charismatique ou non pentecôtiste, je vais me restreindre, je vais être obligé, parce que je dois respecter ceux qui m'invitent, quelque part. Il y a toujours un certain respect. Puis je vais me sentir un peu restreint à un moment donné, je vais me sentir un peu à l'étroit. Je vais ronger mon frein tel que je me connais. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est comme nager dans 5 cm de profondeur. Qu'est-ce qu'on fait dans 5 cm de profondeur ? On ne peut que barboter. Hein ? C'est du barbotage. Et nous ne pouvons pas nager, nous ne pouvons pas évoluer tel que nous le voudrions, parce qu'il est impossible de nager ainsi dans si peu d'eau. Alors je n'ai jamais eu cette occasion-là, hein, donc j'en parle tout à fait librement, je n'ai jamais eu l'occasion d'aller prêcher dans une église autre que charismatique ou pentecôtiste, où la vie du Saint-Esprit, où le règne du Saint-Esprit, où le baptême dans le Saint-Esprit est mis à l'honneur. Mais par contre, j'ai eu l'occasion de prêcher dans des églises qui n'avaient plus de nom que l'étiquette pentecôtiste ou charismatique, mais qui n'en vivait plus la réalité. Ben vous savez, une chose, je crois que c'est la même chose. On barbote dans 5 cm d'eau. Mais là, on a un petit peu plus de liberté, on se restreint moins, et là, on peut y aller franco et dire ce qu'il y a à dire. Et c'est merveilleux parce que Dieu répond toujours. Dieu est celui qui veut vraiment inonder son peuple de cette vie. Et il y a toujours, au sein d'une église, même attiédie, des hommes, des femmes qui comprennent qu'à un moment donné, qu'il y a un autre enjeu, qu'il y a autre chose à vivre et qui ont soif et qui vont finalement être les moteurs pour que d'autres, à leur suite, puissent eh bien, prendre le même chemin. Vivre sans la profondeur du Saint-Esprit est quelque chose de fatigant. Je n'ose même plus imaginer vivre cela parce que c'est une corvée. Un grand prédicateur que vous connaissez, qui s'appelait Charles Spurgeon, a dit « Certains chrétiens font naviguer leur bateau dans des eaux spirituelles tellement basses que la quille racle le gravier continuellement, et cela jusqu'au ciel, au lieu de se laisser porter par la marée haute. » C'est une belle image. Il avait toujours de belles illustrations, ce frère. Et Charles Spurgeon a vécu lui aussi cette plénitude de l'esprit. Et ça me fait penser, quand nous allons faire du canoë, pour ceux qui aiment le canoë, si vous allez à Récréal, bah souvent, quand nous avons la chance d'avoir du beau temps, comme la canicule qui a frappé cet été, ben vous raclez les fonds. Et cette année, je crois qu'on raclait le fond partout dans la Semois et sur la Lesse également. Et nous ne voulons pas que ce soit conforme à cette image, que notre vie spirituelle soit conforme à cette image de ce qui se passe pendant les vacances, dans cette période estivale où on racle les fonds. Mais nous voulons que notre canoë à nous, le canoë de notre vie chrétienne, eh bien, elle soit sur des eaux profondes et que nous puissions naviguer en pleine eau. Il y a des gens qui n'ont pas encore atteint ce torrent de vie et qui n'ont pas encore trempé leurs chevilles et leurs pieds dans ce fleuve. Ils sont consacrés, ils sont dévoués, mais ils s'épuisent lentement au travail pour Dieu et parfois avec peu de résultats. Vous savez que l'apôtre Pierre a dit à un moment donné « J'ai pêché toute la nuit sans rien prendre, sans rien attraper ». Et une église qui ne dépend pas du Saint-Esprit, qui n'est pas assistée par le Saint-Esprit, va vivre cette triste réalité d'avoir peu de poissons en son sein. D'avoir les poissons, c'est les nouvelles âmes, c'est les nouvelles personnes, les personnes qui ne connaissent pas Jésus. Cette poisson, eh bien, sont l'image de ce qu'ils sont. Jésus a dit « Je vous ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Mais s'il n'y a pas la vie de l'esprit dans l'Église, très vite, nous ne prendrons pas grand-chose comme poissons, parce que les poissons, ils sont attirés par cette eau vive, par cette eau tourbillonnante. Je vous l'ai dit, dans le Rio Minho, eh bien, il y a beaucoup de poissons, parce qu'il y a beaucoup de tourbillons, il y a beaucoup de vie. Et du coup, eh bien, quand vous pêchez à la mouche, là, vous ramassez 3 poissons d'un coup. Alors quand vous arrivez, vous avez intérêt à avoir une bourriche bien garnie, bien dimensionnée plutôt, parce que quand vous repartez à la maison, eh bien, vous avez vraiment les paniers pleins, comme dans la pêche miraculeuse au fond. Alors ne vivons pas cette triste réalité de ne prendre rien du tout, mais là où il y a la vie, là où ça grouille de vie, eh bien, on pêche et on prend des poissons. Nous sommes comme Pierre appelés à avancer en eau profonde. En pleine eau, selon les versions utilisées. Avance en eau profonde, dira Jésus à l'apôtre Pierre. Et ça voulait dire plus qu'avancer en eau profonde pour la pêche, même si ça a été une réalité concrète, matérielle, et il a pris des poissons, il a eu cette pêche miraculeuse, et c'était une leçon spirituelle en même temps. Et nous devons nous aussi prendre acte de cette leçon spirituelle et avancer en eau profonde, avancer en pleine eau, c'est-à-dire nous laisser déborder par la présence du Saint-Esprit. Que notre coupe puisse déborder, que nous puissions être imprégnés du Saint-Esprit. L'apôtre Paul dira « Soyez remplis du Saint-Esprit » et dans le terme utilisé en grec, c'est « Soyez imbibés du Saint-Esprit ». Une femme qui était opposée il y a quelques années au Saint-Esprit, eh bien, c'était le pasteur Gérard Verniol, c'était un de mes pasteurs auparavant. Il était ensuite atterri en Alsace après avoir été dans les Ardennes. Et en Alsace, les gens étaient un petit peu assez conformistes. Faut pas trop que ça bouge, faut pas trop que ça déraille. Mais finalement, ça devient mort à la fin. Et finalement, cette femme s'est laissée convaincre d'aller à une rencontre en Allemagne. C'était tout près hein, pour eux. Et il y avait ce fameux évangéliste Reinhard Bonnke qui prêchait sur le baptême dans le Saint-Esprit. Et cette femme est revenue de ce lieu complètement imbibée, selon le terme grec utilisé dans Éphésiens, chapitre 5. Et il a fallu la ramener chez elle, parce qu'elle ne rentrait plus dans sa voiture tellement elle tourbillonnait. Imbibée du Saint-Esprit, enivrée du Saint-Esprit, comme les premiers disciples. Et cette femme, il a fallu la reconduire. Ce n'est que le lendemain qu'elle a pu marcher à nouveau bien. C'est comme si elle avait bu, mais elle n'avait pas bu, évidemment. Et elle a témoigné elle-même, lorsque j'étais présent dans cette église, de ce que Jésus avait fait dans sa vie et comment il avait transformé sa vie chrétienne, peut-être un peu religieuse, un peu conformiste, un peu froide, un peu superficielle, en une vie bouillonnante, bouillante. Ça, c'est extraordinaire de découvrir cette dimension. Et c'est ce à quoi Pierre était appelé, avance en eau profonde. C'est ce à quoi Ézéchiel était appelé quand l'homme lui dit « avance, va plus loin ». Alors où avançons-nous, nous ? Où est-ce que tu avances, mon frère, ma sœur ? Sachons que Jésus est sur la rive et qu'il regarde. Et il veut nous voir entrer dans ce fleuve dans lequel il nous invite, comme cet homme était là sur la rive et il regardait Ézéchiel, en même temps qu'il mesurait avec un cordeau les étapes qu'Ézéchiel devait franchir. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 12 à 17, Jésus dira « en vérité, je vous dis, « Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Et il en fera de plus grandes que celles-ci, parce que moi je m'en vais au Père. Et quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur pour être avec vous éternellement, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Amen. » C'est annoncé que c'est le Saint-Esprit qui fera les choses pour nous. Le secret de la vie du Saint-Esprit, c'est que Dieu fait le travail au travers de nous et pour nous. La puissance que Dieu nous donne n'est pas juste un kit de survie en milieu hostile pour 1 ou 2 heures. Mais c'est un revêtement puissant qui fait que notre vie chrétienne normale va devenir comme ce que le psaume 1, verset 3 nous dit. Il est un arbre planté près d'un courant d'eau et il donne son fruit en chaque saison, etc., etc., etc. Vous pouvez relire ce psaume. Il est l'image de la vie de l'esprit à laquelle Dieu vous appelle. C'est une vie de repos de l'âme, une vie, eh bien, de paix en Dieu, C'est une vie d'amour, parce que l'amour de Dieu est toujours là, c'est une vie de grâce, et c'est une vie où on porte du fruit, parce que l'Esprit de Dieu, il est porteur constamment de fruits, puisqu'il est la vie. Et là où il y a la vie, il y a du fruit. Notre succès dépend donc de la plénitude du Saint-Esprit. Avancer dans les eaux profondes du Saint-Esprit. Et dans ces eaux, notre mentalité est transformée. Quand on se tient dans la présence de Dieu, dans la présence du Saint-Esprit, il transforme notre mentalité. Il crée une autre atmosphère, qui est une atmosphère de foi, une atmosphère de louange, une atmosphère d'adoration. Des fois, dans nos milieux évangéliques, on a peur de parler d'atmosphère. Ah, il va chauffer la salle. Eh bien oui, parfois, il faut la chauffer pour que la foi naisse, pour qu'on croie dans ce que Dieu est capable de faire. Il y a tellement de froideur parfois dans les églises qu'il faut chauffer l'atmosphère et la créer, la susciter par le Saint-Esprit, évidemment, pas par nous-mêmes. Sinon, nous serions dans du préfabriqué, ça n'apporterait strictement rien si ce n'est des œuvres de la chair. Mais de temps en temps, nous avons besoin d'être visités par une autre atmosphère que celle dans laquelle nous avons pris l'habitude de vivre. Et quand nous sommes dans les eaux du Saint-Esprit, eh bien Dieu crée une autre atmosphère. Et à cause de cette autre atmosphère, notre mentalité est transformée. Notre foi devient un détonateur puissant d'un seul coup. Notre foi entend la parole et agit pour la mettre en pratique dans la foi. Et il y a des conséquences à cette atmosphère. L'atmosphère est alors teintée de foi, de louange, d'adoration, de paix, de joie, du prophétique de Dieu également, de la puissance d'en haut. La manifestation du Saint-Esprit, les dons spirituels viennent en accompagnement. C'est comme un festin. Quand vous avez l'entrée, il y a le plat de résistance qui suit, il y a le dessert. Il y a tout avec. C'est un festin complet que Dieu nous offre. Nous l'avons vu, que Dieu a un festin pour nous. Eh bien, ça fait partie du festin. Sa puissance à l'œuvre, la manifestation de son esprit, dit la parole de Dieu. Il est là pour venir aussi dans cette atmosphère libérée. Il est là aussi pour venir guérir. Combien d'hommes et de femmes croyants cachent dans leur cœur le besoin de guérison. On voudrait tellement paraître aux yeux du monde comme des Supermen ou des Wonder Woman, mais nous devons être comme nous sommes. Et si nous avons encore dans notre vie des travers ou des problèmes, eh bien, faut le dire. Il ne faut pas avoir peur d'être comme on est. Eh bien, nous avons une espérance, un espoir immense, c'est que le Seigneur est avec nous et qu'il peut nous libérer, qu'il peut nous guérir et que la Bible dit qu'il est paru pour détruire les œuvres du diable. Alors nous pouvons être guéris dans notre être intérieur, dans nos émotions, et rien de ce qui est passé ne peut pas être amené à la purification. Nous sommes appelés à vivre quelque chose, qui est mon troisième point, de gloire en gloire. Troisième point, de gloire en gloire. C'est l'évangéliste Bonnequeux qui faisait remarquer dans une prédication qu'il y a des gens qui courent partout pour recevoir une onction nouvelle. Cet ordre, les Écritures, c'est une incompréhension totale du plan de Dieu. L'onction que nous avons reçue une première fois en étant remplis du Saint-Esprit, elle est appelée à durer toute la vie. Il nous revient juste de l'entretenir, de savoir ranimer la flamme si besoin est, de garder ce que nous avons reçu et de le tenir ferme, et de l'utiliser aussi. Comme ces gens qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit, qui ont parlé en langue une fois et n'ont plus jamais parlé en langue de leur vie. Eh bien, nous devons utiliser ce que Dieu nous donne. Et il parlait d'Éliab, qui était le frère de David. C'était un professionnel de la guerre, c'était un soldat de l'armée d'Israël. Et pourtant, il a eu peur en face de Goliath, cet homme disproportionné, ce géant philistin. Et il a eu peur. Tandis que David, lui, venait de recevoir l'onction de la part du prophète Samuel pour devenir roi d'Israël. Et cette onction va le faire bouillir, va le rendre fervent. Et de ce bouillonnement va surgir un zèle de Dieu, un zèle pour Dieu, un zèle pour l'Éternel et une indignation face aux proférations de cet ennemi qui venait blasphémer jusqu'aux portes d'Israël. Et mentalement, il a commencé à comparer ce géant au Dieu éternel, au Dieu tout-puissant, au Dieu très haut. Et il va le voir comme un nain, obligatoirement, parce que devant Dieu, ce géant, c'était un nain. Et il va le vaincre en lui plantant un caillou avec sa fronde en plein crâne. Il n'est pas retourné voir Samuel pour qu'il lui redonne une nouvelle onction. Vous voyez, même l'Ancien Testament prouve que nous n'avons pas besoin d'une nouvelle onction. Celle que nous avons reçue lorsque nous sommes baptisés dans l'Esprit, remplis de sa puissance, est suffisante pour le reste de notre vie. Elle lui suffisait amplement. Et encore, il avait même 5 pierres. Vous savez-vous pourquoi? Je crois que je vous l'ai dit. C'est parce que Goliath avait d'autres frères. Il avait 4 frères. Donc il avait imaginé, peut-être il les connaissait, eh bien que si les autres frères, vous savez, c'est un petit peu comme dans les cités, quand vous castagnez avec un gars, eh bien, ils vont chercher les frères, hein, des fois. Eh bien là, Goliath, David, il a dit, s'il va chercher ses frères, ben, j'ai 4 pierres en plus. Mais une seule a suffi parce que les autres, ils ont eu peur. Hein? Et c'est ça l'onction. C'est qu'on est audacieux. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. On est plein de hardiesse, on est plein d'assurance par l'Esprit de Dieu. C'est une force qui se communique, qui est surnaturelle, ça ne vient pas de l'homme, et qui donne un courage particulier pour aller de l'avant, pour faire des choses que nous pensions même être impossibles pour nous. Nous sommes appelés à entretenir le feu et l'onction qui sont en nous, et à ranimer la flamme s'il le faut, mais cette onction puissante demeure en nous, dit la parole, pour l'éternité. Tout comme le feu ne doit pas s'éteindre, mais nous devons le ranimer si besoin est, et il doit nous embraser et non pas nous consumer. Et nous ne devons pas nous consumer en des œuvres stériles, faire du travail pour du travail, mais ça doit être toujours conduit par le Saint-Esprit, loin par le Saint-Esprit, sous l'impulsion du Saint-Esprit que nous faisons les choses. Il y a bien sûr des choses à faire, mais nous ne pouvons pas les faire par nous-mêmes uniquement. Nous avons besoin de son énergie, de sa force. Le terme « énergie » est juste parce que dans la Bible, il est question de l'énergie du Saint-Esprit, « energeia » en grec. La force qu'il communique. Alors pourquoi 4 étapes de 1000 coudées? Pourquoi le prophète a dû franchir 4 étapes de 1000 coudées? Le chiffre 4 nous parle déjà de tout ce qui est terrestre. Et nous sommes, nous, de la terre. Nous sommes des fils d'Adam et Dieu tient compte de nos infirmités, de nos incompréhensions. Il tient compte de nos doutes. Il ne nous jette pas dans le grand bain en une seule fois, tous ensemble. Et en même temps, alors son œuvre concerne chaque individu, chacun de nous, avec un amour particulier, avec une grâce particulière. Rappelez-vous qu'il y avait une langue pour les 120 personnes qui étaient là. Chacun a reçu une langue sur sa tête. Et chacun a reçu aussi un parler en d'autres langues. Chacun a été béni. Dieu voyait chaque individu présent dans la chambre haute. Et quand nous demandons le Saint-Esprit, il ne nous donne pas des scorpions à la place. Et chaque individu qui lui demande, Dieu en réserve quelque chose pour lui. C'est un immense espoir pour nous. Ça veut dire que nous ne sommes pas oubliés de Dieu. Et ce que nous demandons, Dieu a entendu. Et Dieu nous regarde. Et Dieu va bénir chacun de nous. Ézéchiel a dû donc progresser dans le fleuve, comme on n'apprend pas à nager en étant une tête brûlée et en fonçant partout dans l'eau, ou une mauviette parce qu'on a peur. Eh bien, il faut aller de progrès en progrès. La plénitude du Saint-Esprit a pour objectif de nous permettre de ne plus travailler pour Dieu, mais de travailler avec Dieu et de permettre à Dieu de travailler pour nous. Nous ne sommes pas, frères et sœurs, des chevaux de trait ardennais qui doivent faire des corvées pour Dieu. Hein ? Vous savez que les chevaux de trait ici, c'est quelque chose. Hein ? Mais nous, on n'est pas appelés à être des chevaux de trait, appelés à s'épuiser, mais nous sommes des fils et des filles de Dieu, des filles du Père, des fils du Père. Et comme le frère du fils prodigue, Dieu veut nous dire, « Mon enfant, tu es toujours avec moi. » Et tout ce qui est à moi est à toi. On n'a qu'à se servir au buffet de Dieu. Nous n'avons qu'à nous servir au festin de Dieu, au banquet que Dieu nous a préparé. Mon enfant, tu es toujours avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Nous sommes ouvriers avec Dieu, co-héritiers avec Christ, dit la parole de Dieu. Et le message que Dieu véhicule à travers ce prophète, Ézéchiel, c'est que nous avons besoin d'être emportés par le glorieux fleuve du Saint-Esprit pour y nager, pour y évoluer. Ne restons pas au minimum vital, mais rentabilisons notre vie chrétienne en devenant des administrateurs des biens célestes, non pas à 5%, mais à 95%. C'est un bon rapport boursier. 95% de rentabilité. Hein ? Je ne parle pas d'argent, je ne parle pas de bénédictions matérielles, je parle des bénédictions que Dieu a préparées pour nous dans les lieux célestes. Nous devons rentabiliser ce qu'il nous offre en le recevant, en vivant, en appliquant, en mettant en œuvre, en vivant les choses. Vivre toutes les dimensions que Dieu veut que nous vivions. Quatrième point, c'est une question, un fleuve ou une mer? Parce qu'on parle d'un fleuve ou d'une rivière, puis parfois il est question d'une mer. Nous avons lu, et il me dit, ces eaux sortent vers la contrée orientale. Elles descendent dans la plaine et parviennent jusqu'à la mer. Lorsqu'elles seront déversées dans la mer, les eaux de la mer seront rendues saines. Et il arrivera que tout être vivant qui se meut partout où parvient la double rivière vivra. Et il y aura une très grande quantité de poissons, car ces eaux parviendront là, et les eaux de la mer seront rendues saines, et tout vivra là où parviendra la rivière. Dans l'Apocalypse, chapitre 21, verset 1, il nous est dit que la mer n'était plus. Dans le ciel, la mer n'était plus. Et au chapitre 22, verset 1, nous lisons « Il me montra des fleuves d'eau de la vie, limpides comme du cristal, qui sortaient du trône de Dieu et de l'agneau. » Alors dans le ciel, il n'y a plus de mer, mais par contre il y a des fleuves, nous dit la parole de Dieu. C'est bizarre ce passage-là, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre la mer et les fleuves? La mer, dans la parole de Dieu, représente les masses humaines et les méchants qui sont comme la mer agitée. Vous lisez ça dans Ésaïe 57, verset 20. C'est aussi le dépotoir de nos péchés, puisque Dieu dit qu'il jette nos péchés dans l'océan ou dans la mer de l'oubli. Les mêmes eaux souillées reviennent jour après jour dans la mer. La marée ramène les saletés que nous pensions disparues. Elle les jette aussi dans la lagune. La lagune, c'est encore autre chose, vous l'avez lu, on n'en parlera pas ce matin, mais la lagune nous parle finalement de la condamnation éternelle, de l'enfer. Il est question du sel, on retrouve un peu cette image du sel. Mais la lagune, c'est là où tout est pourri, vous voyez. C'est l'image de notre péché et de la réprobation de ceux qui continuent à vivre dans le péché au lieu de se tourner vers Jésus. Le fleuve, donc, il est différent de la mer, il est torrentiel et il a la fraîcheur constante car l'eau n'est jamais la même, elle est renouvelée et Dieu a quelque chose de nouveau aussi chaque matin dans la vie qu'il nous offre, dans la vie de plénitude qu'il nous offre. C'est important de le constater, la mer et le fleuve, ce n'est pas la même chose dans la Bible. Et enfin, il y a des eaux profondes ici dont il est question. Le prophète dit, donc, il a mesuré encore 500 mètres. C'était devenu un torrent que j'étais incapable de traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Et là, on rejoint Spurgeon qui parlait des eaux profondes. On ne pouvait donc pas marcher dans le torrent, il fallait nager. Et celui qui découvre les secrets de la natation dans la vie de l'esprit va voir sa vie chrétienne, son service, son ministère complètement transformé. Parce qu'au lieu de marcher dans le torrent, il va nager dans le torrent, il va être porté par ce torrent. C'est extraordinaire. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, l'apôtre Paul dira « Nous tous qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Le Saint-Esprit veut nous transformer. Le Saint-Esprit veut nous transformer de progrès en progrès, de gloire en gloire, dans ce royaume spirituel, dans cette sphère de la dimension du monde de Dieu. Et ce verset nous parle vraiment d'entamer une traversée en profondeur dans la plénitude de l'Esprit. Avance en eau profonde. Cela entraîne une transformation intérieure qui permet d'être de plus en plus ressemblant à Jésus, ce pourquoi il nous a aussi sauvés, ce pourquoi il aussi nous a prédestinés, pour que nous soyons semblables à lui. Il veut nous guérir dans l'intérieur pour que nous ne restions pas ce que nous sommes actuellement, mais que tout soit guéri, que l'eau divine, l'eau pure qui sort de son trône emporte toute et charrie toutes ces impuretés, toutes ces maladies, des émotions, maladies eh bien, dues au péché, à l'altération que le péché amène dans nos vies et dans notre vie intérieure plus précisément. Alors, et la suite, cinquième point. Il nous dit « Quand j'y fus retourné, c'est-à-dire sur la rive, voici au bord de la rivière des arbres en très grand nombre d'un côté et de l'autre. » Et un petit peu plus loin, « Et il y aura une très grande quantité de poissons, car ces eaux parviendront là, et les eaux de la mer seront rendues saines, et tout vivra là où parviendra la rivière. Et les pêcheurs se tiendront auprès d'elle, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm. Ce sera un lieu pour étendre les filets. Leur poisson sera selon ses espèces, comme le poisson de la grande mer. » En très grand nombre. Et sur la rivière, sur son bord, d'un côté et de l'autre, croissaient toutes sortes d'arbres dont on mange. Leur feuille ne se flétrira pas, et leur fruit ne cessera pas. Tous les mois, ils porteront du fruit mûr, car ces eaux sortent du sanctuaire, et leur fruit sera pour nourrir, et leur feuille pour guérir. Il est beaucoup question de guérison ici. Ézéchiel revient donc sur la rive, et désormais, il ne regarde plus le fleuve. Le fleuve est en lui, il fait partie de lui, ce fleuve. Comme nous, nous sommes appelés par Jésus, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de quoi ? De son sein. c'est-à-dire de son être intérieur, le fleuve de vie fait partie intégrante de nous. Le prophète, lui aussi, est transformé et il est étonné. Et Dieu veut nous étonner aussi par cette vie de l'esprit qu'il nous offre. Et le prophète Ézéchiel voit quelque chose qui n'était pas là avant qu'il entre dans le fleuve. Il voit des arbres. Auparavant, il n'y avait pas d'arbres. Dieu a changé le paysage environnant. Et pour nous aussi, les conditions changent. Les impossibilités deviennent des possibilités. Le fatalisme qui nous clouait sur place par rapport à des situations devient autorité spirituelle. Notre stérilité devient abondance de fruits. Ézéchiel a peut-être auparavant voulu planter des arbres, mais là, en quelques minutes, Dieu a fait pousser des arbres qu'Ézéchiel avait voulu faire. Ce qu'il a voulu faire en plusieurs années, Dieu l'a fait pousser en quelques minutes, en quelques instants. Et c'est là que résonne l'appel de Zacharie, chapitre 4, verset 6. « Non par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. » Celui qui marche et vit dans le Saint-Esprit et sous sa direction et sous son onction sera chaque jour étonné, car Dieu accomplit des miracles, des signes et des prodiges de plus en plus, de gloire en gloire. Ce ne sont pas toujours des miracles et des signes qui en jettent, mais quand c'est dans l'être intérieur de quelqu'un et que la personne est guérie dans le plus profond de son être, eh bien, ça se voit peut-être pas forcément vers le trottoir d'en face, mais néanmoins, dans la vie de la personne, ça se voit. Et ceux qui vont revoir cette personne vont la trouver transformée, changée. Et chaque fois que nous sommes sur ce terrain de la vie du Saint-Esprit, la vie du royaume de Dieu, eh bien, il y a transformation, il y a guérison, c'est ce qui est écrit ici. Ces arbres portaient déjà du fruit. Ça s'est fait en quelques instants. En un clin d'œil, les arbres ont poussé et le fruit est arrivé. Et nous, des fois, on concocte nos propres recettes évangéliques, nos propres méthodes pour gagner des gens, pour faire croître l'Église. Mais en quelques instants, Dieu peut le faire quand nous sommes tout simplement obéissants aux injonctions de l'Esprit de Dieu. Quand nous nous laissons envahir par ses eaux, quand nous sommes partie intégrante de ce fleuve de vie. Dieu a dressé au fond une table avec des fruits. On devient partenaire du Saint-Esprit, co-ouvrier avec Christ. Et c'est par le Saint-Esprit que le monde peut être évangélisé. On ne peut pas gagner notre génération à Dieu sans la puissance du Saint-Esprit. C'est ce qu'ont fait les premiers chrétiens et c'est comme ça qu'ils ont gagné tout le monde antique d'alors. Pour cela, vivre, marcher dans le Saint-Esprit en lui obéissant quand il nous invite à agir et qu'on puisse le suivre ainsi au grand large où l'eau est suffisamment profonde pour nager. Je ne sais pas quel est votre état d'esprit par rapport à cela, mais en tout cas, nous ne sommes pas appelés à être des bédouins du désert. Notre élément, c'est le fleuve de vie, pas le désert, comme Israël qui a été errant durant 40 ans dans le désert. Jésus nous a promis des fleuves d'eau vive comme quelque chose de naturel. Nous devons être des hommes du fleuve et non pas des simples admirateurs du paysage et même du fleuve. Dieu en réserve un fleuve de vie, pas une petite piscine pour chacun de nous. Comme nous ne pouvons pas aller sur la Lune sans une combinaison spatiale, eh bien nous ne pouvons pas vivre la réalité du royaume de Dieu, de la sphère du surnaturel de Dieu, sans le revêtement de puissance du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que c'est en lui qu'est la vie, le mouvement et l'être. Vivre, c'est déjà une chose, se mouvoir en est une autre, et l'être, c'est vous serez mes témoins. La puissance du Saint-Esprit descendant sur vous, et vous serez mes témoins. Être un témoin dépend de la puissance du Saint-Esprit en nous. Et sans ce revêtement, nous n'avons pas la vie, le mouvement et l'être. On va être limité, on va être dans la petite piscine. Alors, nous sommes invités à entrer dans le grand fleuve et à ne pas nous contenter du minimum vital. La vérité biblique doit elle-même être baptisée dans le Saint-Esprit sous peine de devenir la lettre qui tue, mais elle doit être l'Esprit qui vivifie. Notre service doit être baptisé dans le Saint-Esprit pour porter le fruit escompté. Notre témoignage, la prédication même doit être baptisée dans le Saint-Esprit, sans quoi, eh bien, on est dans la lettre, on est dans la sécheresse, on est dans la religiosité. L'onction aussi brise le joug. Et s'il y a encore un joug qui te rend esclave, s'il y a encore un joug qui t'empêche d'avancer, l'onction brise le joug, dit la parole de Dieu. L'onction brise le joug.